Science CQFD, Natacha Triou.
Comment protéger la Terre d'un impact d'astéroïdes? C'est historique, cette nuit, nous avons testé pour la première fois une nouvelle technologie. Les collisions entre un géocroiseur et la Terre peuvent être ravageuses. Parole de Dino. Ce matin, à 11 millions de kilomètres de nous, et après 10 mois de voyage, une sonde kamikaze s'est crachée à 24 000 km/h sur sa cible, le petit astéroïde Dimorphos. Son objectif ? Dévier sa trajectoire. Ce scénario, digne d'un film de science-fiction, c'est celui de la double mission DART ERA de la NASA et de l'ESA. DART, à la fin de l'envoi, je touche. Bonjour Naomi Murdoch.
Bonjour.
Bonjour, vous êtes chercheuse en planétologie à l'ISAE Superhero et vous êtes membre des équipes DART ERA. Avec nous, Mathilde Fontaise, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes rédactrice en chef de la formidable revue Epsilon. Et avec nous également Patrick Michel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche au CNRS à l'Observatoire de la Côte d'Azur, responsable scientifique de la mission ERA de l'ESA. Merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation en direct des studios de France Culture. En complément d'écoute, vous pouvez nous suivre sur Twitter pour notre live tweet sur notre fil @sciencecqfd. Tout au long de cette heure, nous parlerons de ce tout premier test de déviation d'astéroïdes en conditions réelles, de comment s'organise cette défense spatiale et des résultats scientifiques attendus. Pour le moment, attachez vos ceintures, nous sommes en direct de la salle de contrôle des opérations de la NASA ce matin à 1h14 pétante.
It's amazing, guys. Oh my goodness, look at that. Unbelievable.
Yeah. Looks to me like we're headed straight in. Oh my gosh. Oh wow.
Yeah. Oh my goodness. 8, yeah. 7, oh, 6, wow. 5, 4, 3, 2, 1.
Oh my gosh. Oh wow.
Awaiting visual confirmation.
All right. We got it?
Ah oui, j'ai toujours beaucoup d'émotions à écouter la joie des équipes quand les missions spatiales réussissent. La joie est palpable aussi de votre côté, Patrick Michel.
Alors écoutez, là, quand je suis en train d'écouter ça, j'ai la larme qui coule, parce que j'y étais, et d'où un peu ma voix un peu cassée. Et pour nous, c'est vraiment la concrétisation de 20 ans d'efforts, puisque tout ça a commencé en Europe par une première étude, puis après une discussion entre moi-même, un collègue américain, qui ont fait naître ce projet en discutant ensuite avec l'Agence spatiale européenne. Et d'ailleurs, je mentionne Yann Carnelli de l'ESA qui nous a beaucoup aidé et la NASA. Et donc, c'est un peu la concrétisation. C'est même incroyable. J'ai encore du mal à y croire. Et là, c'est que le début des cris. Ça a été beaucoup plus fort après. Donc, c'est vraiment des moments d'émotion que je souhaite à tous les chercheurs qui ont la chance d'être dans ces grands projets.
Naomi Murdoch, une réaction?
Oui, bah pareil, j'ai encore des frissons quand j'écoute tout ce qui s'est passé hier soir. C'est vraiment un moment inattendu, super, et on est tellement, tellement contents que la mission ait été un tel succès.
Mathilde Fontaise.
Oui, alors moi j'ai suivi aussi, et j'ai été très émue, puis surtout je l'ai trouvé que c'était une année incroyablement riche, parce que j'étais à peine remise du déploiement du télescope JWST et de ce suspense. Et tout à coup, on a DART avec ces images qui s'affichent seconde par seconde et une espèce de matière astéroïdale complètement inconnue qui apparaît, et avec le bruit de fond des chercheurs qui explosent de joie. C'était vraiment, vraiment incroyable de voir leur réaction à chacune des images, en fait. À chaque fois, on met, Patrick Michel va en parler mieux que moi, j'imagine, mais à chaque fois, on voyait qu'ils étaient heureux de voir à quoi ressemble cette matière qui était jusque-là totalement inconnue.
Alors la sonde DART, ça signifie fléchette en anglais, mais là ça veut dire Double Asteroid Redirection Test. C'est une sonde, un kamikaze, qui a été lancée le 23 novembre 2021 via une fusée Falcon 9 de SpaceX. Est-ce qu'on peut, Naomi Murdoch, décrire le déroulement des événements étape par étape cette nuit?
Bah déjà, la sonde a été lancée en novembre de l'année dernière. Après 10 mois de voyage, finalement, la sonde s'approche à l'astéroïde Dimorphos. Et nous avons commencé à voir le petit astéroïde Dimorphos environ 1 heure avant l'impact. Donc, à ce moment-là, c'était tout juste la taille d'un pixel sur l'écran. Et puis, avec le temps, ça s'est devenu de plus en plus gros. Jusqu'avant l'impact, l'astéroïde a rempli tout le champ de vision de notre caméra sur DART. Et c'était du coup à 1h14 ce matin que la sonde a bel et bien percuté l'astéroïde Dimorphos à grande vitesse, donc à 6 km par seconde. Et en fait, c'est un défi énorme. C'est un peu comme lancer une fléchette de Toulouse, où je suis en ce moment, et viser une pomme sur le côté est du Canada. C'est incroyable ce qu'on est arrivé à faire.
Oui, la pomme en question, donc, c'est Dimorphos. On peut peut-être faire aussi une carte d'identité, hein, Patrick Michel, de cet astéroïde visé par la mission.
Oui, alors, on peut faire la carte d'identité avant-après. Donc avant, et c'est ça qui est formidable, on ne connaissait de Dimorphos, qui est donc la petite lune d'un astéroïde double qu'on appelle Didymos. On a des astéroïdes à peu près 15% qui sont des mini-systèmes Terre-Lune, un peu comme la Terre et la Lune en petit. Donc le gros corps, l'équivalent de la Terre, fait 780 mètres de diamètre. On avait un modèle de sa forme qui était donné par des observations radar qui nous disait que ça devait ressembler à une toupie. Et puis on avait Dimorphos, la petite lune, qui fait 160 mètres de diamètre. Et on n'avait que ça, que la taille. Pas du tout la forme, rien du tout. Et on sait simplement qu'elle tourne en à peu près 12 heures autour de Didymos. Et donc, l'idée, c'était de taper sur la petite lune pour la perturber sur sa trajectoire autour du corps principal, pour ne pas perturber un corps autour du Soleil, parce que comme effectivement, on ne savait pas ce qu'on allait faire, on ne veut pas provoquer le risque qu'on cherche à éviter en bougeant la trajectoire d'un corps autour du Soleil. Et donc, ça, c'est ce qu'on savait au départ. Et le test qui a absolument réussi, c'est qu'on a démontré qu'on est capable d'envoyer une sonde à 23 000 km/h sur un objet dont on ne connaît que la taille, à 11 millions de kilomètres, et cette taille, c'est un tout petit grain de sable. Donc ça, c'est déjà quelque chose de formidable. Moi, j'étais au lancement qui était magnifique en Californie. Il faut savoir que la sonde, même si elle a mis des mois à y aller, on n'attend pas une sonde dans l'espace. On découvre son comportement une fois qu'on y est. Et je peux vous dire que les ingénieurs des opérations, ils ont bossé comme des fous parce qu'à chaque fois, il y a des choses qui se passent. Hein, l'espace reste compliqué. Donc ça, c'était avant. Maintenant, on a les premières images. Et ce que j'ai trouvé génial, c'est qu'on est décidé de permettre au public de découvrir avec nous ce nouveau monde. Donc on était aussi ignorants que le public avant d'avoir les images, et en temps réel, on a découvert ça tous ensemble, et d'abord le plus gros, hein, puisqu'il est plus gros, on le voit plus rapidement, et là déjà la forme de toupie, c'était pas tout à fait ça, et ce qui était marrant, c'est de voir les jeunes chercheurs de l'équipe qui commençaient à s'activer, à dire « Oh là là, mais regarde, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là » Donc ça commençait à discuter comme des fous. Pour Dimorphos, il fallait attendre quand même, parce que comme il est très petit, la première heure, on était surtout sur le gros, et c'est allé très vite qu'on a commencé à voir les images de Dimorphos, qui là ressemble à un agglomérat de roches qui sont mises ensemble, probablement liées par leur propre attraction, enfin à voir, une forme très ellipsoïdale. Et puis jusqu'à la dernière image, où on a un véritable champ de roches, on n'a pas du tout une surface plate, ce qui est très 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 intéressant. Et donc, 3 secondes avant, ben voilà, c'était fini. Et voilà ce que l'on sait de ce système double. On a un corps qui devait être une toupie, qui n'est pas vraiment, qui est le gros. Et on a un petit qui était un agglomérat de roches. Donc maintenant, on ne sait pas ce qu'il est, parce que j'ai l'impression qu'on a quand même mis la sauce, comme on dit. Et là, ben, on va voir ce qui s'est passé. Et on est tout excités à essayer de, en attendant les prochaines données.
Vous nous faites revivre cet impact. Merci. Alors, Mathilde Fontaise, est-ce qu'il y a eu vraiment du suspense pour cette nuit? Il y avait en réalité peu d'incertitudes, non, sur cet impact précisément.
Ben en fait, il y en avait énormément. Oui, alors moi j'avais suivi le sujet au moment de la sélection de la mission, donc il y a quelques années, en 2019 je crois, ou 2017, je ne sais plus. Et à ce moment-là, on avait une perception enfin, presque précise en fait, hein, de ce qui allait se passer. On nous parlait de voilà, donc comme ça, ralentir l'orbite de ce petit astéroïde autour du grand un petit peu, puis ensuite voir la déviation, la mesurer, etc. Et en refaisant l'enquête en juillet pour préparer le dossier qui est ce mois-ci dans Epsilon, qui est consacré à la mission DART, et bien là j'ai vu que tout avait changé. Quand interrogeant les chercheurs, en fait, on n'était plus du tout sûr de rien, de ce qui allait arriver. Pourquoi ? Parce que, entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé ? Entre-temps, deux sondes sont allées visiter des astéroïdes. La première, Hayabusa 2, la sonde japonaise, et ensuite Osiris-Rex, qui ont chacune visité et même touché un astéroïde. Ryugu pour la sonde japonaise et Bennu pour la sonde américaine. Et ces deux sondes, en fait, en touchant leurs astéroïdes, n'ont pas du tout touché comme elles le prévoyaient. Les cratères qui ont été faits ont été beaucoup plus gros. L'astéroïde Bennu s'est enfoncé comme s'il n'y avait même pas de réaction de la surface de l'astéroïde qui l'a touché. Bref, tout ça pour dire qu'on a découvert une matière d'astéroïdes tout à fait différente avec ces deux missions qu'on avait envisagées. Alors, ça a permis de refaire plein de simulations sur ce qui allait arriver ensuite pour DART, dont le but était quand même de percuter un astéroïde et de le dévier un petit peu de sa trajectoire, de le ralentir sur son orbite. Et en fait, toutes ces simulations ont montré beaucoup plus de cas différents possibles qu'on en avait avant. C'est-à-dire, avant, on pouvait se dire, on va la ralentir de temps, mais là, c'était des simulations qui pouvaient aller pour certaines jusqu'à complètement modifier la forme générale de cet astéroïde Dimorphos. Et là, Patrick Michel, pourra le dire, il a commencé un peu à le dire, j'aimerais bien qu'il en dise plus. On sait pas si on a modifié la forme de Dimorphos en le touchant là complètement, ou si on a provoqué un banal cratère. Donc, en fait, le suspense était total. Au-delà du suspense technique qui était celui de savoir si oui ou non la sonde avec son dispositif de guidage automatique, puisque il s'agissait pas de la diriger à cette distance, à cette vitesse.
Puis c'est comme un véhicule sans conducteur.
Voilà, c'est une sonde autonome. Et donc là, le petit suspense technique était celui de savoir si la sonde allait verrouiller ou pas sa cible à cette vitesse, une cible qu'on ne voyait pas jusqu'à un peu moins d'une heure avant. Mais c'était surtout, je crois que le suspense n'est pas encore totalement levé, puisqu'il va falloir des observations derrière, à la fois par des télescopes au sol et à la fois par cette petite sonde qui est en ce moment un petit CubeSat qui a filmé l'événement et dont on n'a pas encore les informations. Pour savoir ce qui s'est passé et qu'est-il arrivé à Dimorphos, est-il totalement aplati, désagrégé, ou est-ce qu'il a seulement un joli petit cratère dans un coin ?
Alors on l'a dit, il s'agit d'un astéroïde inoffensif qui ne représente pas de menace pour la Terre. Noémie Murdoch, pourquoi le choix de cet astéroïde binaire, pourquoi cette cible ?
Alors il y a trois raisons pourquoi c'était une bonne cible pour nous pour cette mission. Déjà, le fait que ça soit un système avec une lune, donc un astéroïde binaire, ça facilite la mesure des déviations. Donc en fait, c'est beaucoup plus facile de mesurer à quel point on a changé cette période orbitale, le temps que ça prend pour la lune d'effectuer le tour du gros astéroïde, que d'essayer de mesurer une déviation autour du Soleil. Donc première chose, c'est la mesure des déflexions. Deuxième chose, Patrick l'a déjà dit, c'est pour la sécurité. Donc on change à aucun moment le mouvement de ces astéroïdes autour du Soleil. Ça veut dire que aujourd'hui et hier, cet astéroïde ne pose aucun risque pour la Terre. Et finalement, c'est la taille de ce petit objet autour de 160 mètres. C'est vraiment une taille qu'il faudrait qu'on prenne pour la défense planétaire. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup d'astéroïdes de cette taille qu'on ne connaît pas encore bien. On ne les a pas encore découverts dans le système solaire, dans l'espace près de la Terre. Pourquoi ? Parce que c'est plus facile de détecter les gros astéroïdes, c'est plus compliqué de détecter les petits. Et du coup, on sait que les astéroïdes de cette taille-là, il y en a beaucoup, on ne les connaît pas encore. Il se peut qu'un jour, on en découvre un qui pourrait rentrer en collision avec la Terre.
Patrick Michel, est-ce qu'on sait ce qu'on évoquait à l'instant avec Mathilde Fontaise ? Est-ce qu'on sait ce que devrait provoquer cette collision ?
Eh bien, justement, ça c'est la grande question, parce qu'en fait, ce que nous ont montré les missions précédentes, c'est qu'on ne peut pas se fier aux images pour comprendre le comportement de surface sur un petit astéroïde dont la traction de surface est très faible par rapport à celle de la Terre. Et du coup, notre intuition, elle est basée sur ce qu'on expérimente tous les jours sur Terre. Et on s'est aperçu que le comportement de la matière dans ces régimes de microgravité, eh bien, peut être très contre-intuitif. Et c'est quand même assez fascinant qu'en particulier avec la mission Osiris-Rex de la NASA, dont les images étaient époustouflantes, on est resté 2 ans en orbite autour de l'astéroïde Bennu. On était une équipe scientifique très compétente et nombreuse, et on a étudié toute la géologie de surface. Et pourtant, comme l'a dit Mathilde Fontaise, quand on a déposé la sonde pour prendre un échantillon, elle s'est enfoncée comme dans du beurre mou, comme s'il n'y avait pas de résistance mécanique, alors qu'on voyait des rochers. Un rocher, pour moi, c'est solide. Eh ben non, là, ça s'enfonçait. Donc, du coup, on sait que le seul moyen de savoir comment réagit un corps, eh bien, c'est de le toucher. Et évidemment, là, avec DART, qu'est-ce qu'on a? On a des images, les dernières images, qui nous montrent plein de rochers. Et moi, je dirais, oui, d'accord, c'est plein de rochers, mais fort des expériences passées, ça veut rien dire. Et donc, c'est ça le problème. C'est comment va réagir le corps? Malheureusement, la petite sonde italienne qui a été déployée, elle ne peut fournir que quelques images. Ça sera pas vraiment un film, c'est plutôt quelques images qui, des premières minutes, hein, ça sera à peu près 2 ou 3 minutes après l'impact. Ce qui est déjà très bien parce qu'on va pouvoir voir si l'abondance des éjectats est mise dans ces 3 premières minutes. Mais il faut savoir que dans ces conditions de très faible attraction de surface, la matière évolue très lentement. Donc ça veut dire que si on forme un cratère ou si même on déforme le corps, il faut plusieurs heures pour que ceci se produise. Et ça, personne ne sera là pour le voir avant ERA. Donc on n'aura que quelques images du petit CubeSat italien appelé Licia Cube et la campagne d'observation au sol absolument extraordinaire, hein, parce que là on démontre aussi qu'on est capable de se coordonner rapidement, parce que dès l'impact, il y avait déjà des observations au Kenya, en Antarctique, etc., qui ont commencé à nous montrer que waouh, il y a un flash lumineux énorme qui s'est produit, et on espère que dans les prochaines semaines, on va pouvoir mesurer le changement de la période orbitale de Dimorphos. Ce qui, là encore, nous dira simplement si on a pu dévier de façon conséquente, mais ne donnera pas non plus toute l'information dont on a besoin, qui est, par exemple, quelle est la quantité de mouvement, ou disons l'énergie qui a été transmise à Dimorphos, qui dépend de sa masse et que seule la mission ERA doit mesurer. Donc on a vraiment 2 étapes dans cette affaire. On a d'abord DART, qui nous donne les conditions initiales, à quoi ressemble le point d'impact avant de faire l'impact, à quoi ressemble cet objet très bizarroïde. On a les premiers instants après l'impact fournis par le CubeSat italien, les observations au sol, et puis l'enquêteur, le détective, qui va aller plus tard sur la scène du crime, nous donner tous les détails, de telle sorte qu'on a un test de déviation entièrement documenté et qu'on évite d'avoir trop d'inconnus dans les modélisations d'impact qu'on cherche à valider à l'échelle d'un astéroïde. Parce que vous savez, nous qui faisons de la modélisation, en jouant avec les paramètres, on peut toujours reproduire ce qu'on veut. Ça ne veut pas dire que les modélisations sont justes. Pour qu'elles le soient, il faut qu'on parte des bonnes conditions initiales, des bonnes propriétés physiques de l'objet et qu'on reproduise le résultat.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
16h17 sur France Culture, nous parlons de la mission DART ERA, le tout premier test de déviation d'astéroïdes en conditions réelles avec Naomi Murdoch, Mathilde Fontaise et Patrick Michel. Dimorphose a-t-il été dévié? Comme on vient de le dire, ça on ne peut pas encore le savoir. C'est la mission ERA dirigée par l'Agence spatiale européenne qui va nous permettre de mieux comprendre les conséquences de cet impact. Naomi Murdoch, comment va se dérouler cette mission ERA?
La mission ERA déjà sera lancée en 2024. C'est en préparation actuellement. Et ça va arriver à l'astéroïde Dimorphos, le système Didymos Dimorphos, fin 2026. Donc, à bord de cette mission, nous avons plusieurs instruments qui vont nous aider à vraiment caractériser en détail l'astéroïde Dimorphos. Déjà, on va essayer de mesurer sa masse précise, sa composition, sa structure interne. Il faut savoir que jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais regardé à l'intérieur d'un astéroïde. Et avec la mission ERA, et le radar qui sera à bord un des CubeSats de la mission ERA, nous allons pouvoir faire ça pour la première fois. Et très important, on va également regarder la taille et la forme du cratère qui était laissé par l'impact DART. Et toutes ces informations sont extrêmement utiles, parce qu'avec DART, nous pouvons démontrer cette technique de déviation, montrer que oui, c'est possible, a priori, de dévier un astéroïde en espace. Mais sans ERA, nous n'allons pas pouvoir comprendre la réponse de l'objet, pourquoi ça s'est passé tel quel, et vraiment transformer cette répétition générale en technique de déviation bien comprise et maîtrisée. C'est vraiment le rôle clé de ERA.
Mathilde Fontaise, hein, sur l'importance scientifique de l'émission ERA.
Oui, bah, c'est exactement. C'est là que ça va devenir un vrai test de défense planétaire. Là, on a lancé la petite fléchette sur son astéroïde et observé ce qu'on a pu. Et effectivement, les télescopes vont pouvoir. Ce qui est amusant, c'est qu'elles vont regarder le double système un peu comme des exoplanètes. Hein. C'est comme ça qu'on mesure, qu'on découvre les exoplanètes en les regardant passer devant leur étoile. Bon, bah là, on va regarder Dimorphos passer devant Didymos et mesurer comme ça sa trajectoire autour de son astéroïde principal et par là voir s'il y a eu ou pas un ralentissement de sa trajectoire, une déviation. Mais ça ne suffira pas pour savoir si oui ou non on est capable, une fois qu'on voit arriver un astéroïde sur la Terre, d'envoyer quelque chose pour le dévier et faire en sorte qu'il ne tombe pas sur Terre, puisque c'est quand même ça le but. On parle beaucoup, parce que là c'est le moment de la découverte, de cette découverte d'une matière astéroïdale, de ces cailloux, de ce nouveau monde hein, qu'on découvre pour la première fois. Moi je ne peux pas m'empêcher d'être dans un premier temps dans la découverte d'un monde qu'on n'avait jamais vu jusque-là, mais la mission ERA va transformer ce moment-là en un moment un peu de test opérationnel. Est-ce que oui ou non l'humanité est en capacité de se prémunir contre ce risque d'astéroïde qui peut nous tomber peut-être un jour sur la tête, en tout cas menacer de le faire.
Patrick Michel, c'est que on a des modèles théoriques d'impact qui ont été validés en laboratoire, mais là on passe enfin de la théorie à la pratique en quelque sorte.
Oui, absolument. En fait, on a vraiment besoin de valider à la bonne échelle parce que on s'est aperçu avec les missions passées, en particulier un cratère qui a été fait par la mission Hayabusa 2 en utilisant un petit projectile, un 2 kg face à 570 kg d'arc, à 2 km par seconde face à 6 km par seconde. Et comme l'a dit Mathilde Fontaine tout à l'heure, on a fait un cratère beaucoup plus gros qu'on le pensait, tout simplement parce que la surface a réagi comme un fluide finalement. Et on s'est aussi rendu compte qu'il manquait une partie des processus dans nos modèles. Donc on a vraiment besoin de valider ces modèles à la bonne échelle. Et un avantage énorme, mais ça c'est toujours le cas quand on fait une mission vers des astéroïdes, c'est que finalement, peu importe quel est l'objectif principal, eh bien, on a un retour scientifique aussi très important. Ici, on vise la défense planétaire, mais en fait, on répond à des grandes questions scientifiques aussi, puisque les collisions ont joué un rôle fondamental dans toute l'histoire du système solaire, hein, depuis la phase de formation des planètes par des collisions lentes qui ont permis d'agglomérer des corps. Puis une fois les planètes formées, on a eu une phase d'impact géant parce que les planètes étant grosses, les vitesses se sont accélérées entre les corps. On a formé la Lune ainsi et peut-être même les deux lunes de Mars, Phobos et Deimos. Et puis maintenant, quand vous observez tous les corps solides du système solaire, ils sont peuplés de cratères. Donc les collisions sculptent les corps. Et dans la ceinture des astéroïdes, on a des collisions qui se produisent. Les astéroïdes se rentrent dedans, ça génère des fragments dont certains sont envoyés vers la Terre. Et donc si on veut avoir une compréhension robuste de l'histoire collisionnelle du système solaire, il nous faut avoir les bons paramètres pour décider de ce qui se passe quand deux objets se rentrent dedans à la bonne échelle, aux bonnes vitesses. Et les missions DART et ERA vont nous permettre justement de nourrir ces modèles de l'histoire du système solaire. Donc on remplit des objectifs scientifiques en même temps qu'on remplit des objectifs de défense planétaire. Et tout ça passe évidemment par la validation des modélisations, parce que sinon les modélisations restent purement théorique.
Naomi Murdoch ?
Oui.
Oui, pour compléter ce que vient de dire Patrick Michel.
Donc, en termes de science, je pense qu'il faut ajouter le fait que c'est un astéroïde binaire. Donc, ce n'est pas seulement la validation des modèles liés aux impacts. Ce qui est vraiment incroyable pour nous, c'est que c'est la première fois, hier soir, c'était la première fois qu'on a vu un astéroïde binaire, un astéroïde double de près. On ne savait pas du tout à quoi ça allait ressembler avant l'arrivée de DART hier soir. Et même encore, on ne comprend pas tout à fait, c'est pour ça qu'il nous faut ERA. Mais avant l'arrivée hier, on n'était pas 100% sûr que Dimorphos allait être un tas de gravier, un agrégat. Ça aurait pu également être une roche monolithe dans l'espace. Et toutes ces informations vont être extrêmement importantes pour comprendre l'évolution des cyclores. Pourquoi on en voit tellement de astéroïdes binaires? Comment ils se sont formés? Et toutes ces informations nous aident beaucoup avec la science, en plus de la défense planétaire.
Oui, sur ce pan de la défense planétaire, Mathilde Fontaise, ERA doit donc effectuer un suivi, une étude détaillée post-impact. C'est ERA qui pourra confirmer ou infirmer que nous avons mis au point une nouvelle technologie de défense spatiale.
Oui, et ce sera que le début, hein, puisque après, derrière, il faudra sans doute d'autres tests pour pouvoir vérifier qu'on puisse comme ça dévier un astéroïde qui viendrait vers nous, puisque là c'est un astéroïde qui a été ciblé en amont, et etc. Et on n'est pas dans une situation de défense planétaire. Mais c'est vrai que dans les tests qui peuvent être menés, notamment lors de ces conférences de défense planétaire qui permettent aux astrophysiciens de se mettre dans la, et aux techniciens et aux directeurs des agences, enfin bref, de se mettre dans une position de simulation d'un impact, systématiquement, dans ces simulations-là, l'un des points qui gêne, c'est celui de ne jamais avoir testé encore de technologie de défense. Donc, pour la première fois, on va avoir commencé à tester une de ces technologies de défense. Et c'est l'aboutissement d'un travail de très très longue haleine, de prise de conscience de ce risque et de notre capacité à nous, humains, de pouvoir agir sur ce risque. En quelque sorte, on est exactement dans la situation inverse à celle qui est mise en scène dans le film Don't Look Up, avec Leonardo DiCaprio, qui, on le sait, ne parle pas du tout d'astéroïdes en vrai, mais parle du climat. Le climat, oui. Mais qui met quand même en scène des politiciens, toute une société très sceptique et finalement assez peu à l'écoute de ce risque-là, du risque astéroïde. Finalement, on peut se dire que c'est l'inverse qui s'est produit dans la réalité. Alors, même si c'est pas forcément tout rose et tous les budgets ne sont pas là pour surveiller le ciel en entier, mais tout de même, depuis 20 ans, 30 ans, il y a eu une prise de conscience qu'il fallait regarder le ciel, qu'il fallait compter ces astéroïdes-là, déterminer leurs orbites. Ce sont ces astéroïdes qui sont... On rappelle que la Terre est dans un endroit plutôt cool, assez loin en fait de la ceinture d'astéroïdes, qui se situe plutôt entre Mars et Jupiter, mais que tout de même, au hasard des collisions, etc., il y a des petites astéroïdes qui viennent comme ça se rapprocher de la Terre et qui sont des géocroiseurs. Et cette population de géocroiseurs, il fallait réussir à la détecter. Or, les astéroïdes sont de tout petits corps, difficiles à détecter, très sombres pour la plupart, etc. Il a fallu mettre en place de grands surveys, de grands relevés télescopiques du ciel pour essayer de capter comme ça tous ces astéroïdes. Et pour ça, il a fallu des budgets, des décisions, une prise de conscience. Et tout ça s'est produit ces dernières années. Alors, le chemin n'est pas terminé, mais la mission DART et la mission ERA par la suite viennent prendre leur place, en fait, dans ce grand programme de défense planétaire qui s'installe.
Alors on l'a dit, la mission d'Artera se déroule en deux temps. Après cet impact, il s'agit d'étudier les astéroïdes ciblés, notamment leur composition. C'est l'objectif d'un des radars embarqués sur ERA, qui est conçu par une équipe française que nous sommes allés rencontrer. Et c'est avec vous, Antoine Beauchamp, pour le reportage du jour. Bonjour Antoine.
Bonjour Natacha, bonjour à toutes, bonjour à tous. Oui, j'ai rencontré Alain Éric, qui est astrophysicien, responsable de l'équipe Planéto à l'Institut de Planétologie et d'Astrophysique de l'Université Grenoble-Alpes. Et avec nous était également présent Hugo Neidenhoff, qui est ingénieur électricien au sein du même institut. Alain Éric est responsable du développement d'un petit radar baptisé Jura, qui s'intégrera à la mission ERA et qui aura pour objectif de cartographier et de caractériser la composition de Dimorphos. Mais avant de réaliser ce tout premier sondage de la structure interne d'un astéroïde, un prototype du radar est testé en laboratoire en attendant 2027. Alain Éric et Hugo Neidenhoff nous font donc la démonstration des tests du radar et nous expliquent les résultats scientifiques attendus.
La spécificité de Jura, c'est d'être implémenté sur un CubeSat. C'est-à-dire on n'est pas directement sur ERA, le vaisseau mère, on est sur un petit satellite qui fait 10 cm par 20 cm par 30 cm. Et là-dessus, on a une petite boîte, 10 par 10 par 10, pour l'instrument. Et on a aussi deux antennes, c'est-à-dire 4 mâts qui vont être déployés et qui font 1,20 m chacun. L'intérêt d'être sur un CubeSat, c'est en fait de pouvoir s'approcher beaucoup de l'astéroïde, puisqu'on va être sur des orbites qui vont être à 3 km, puis à 2 km, je parle du centre de masse du système, donc qui vont s'approcher à une distance kilométrique de la Lune et à 1,5 km de la surface. Avec ça, on a une très bonne condition pour observer la surface et pour sonder l'intérieur. Et c'est vraiment ça l'objectif de cet instrument, c'est pour la première fois d'être capable d'étudier, de mesurer directement la structure interne d'un astéroïde. Donc là, on est dans ce qu'on appelle la salle concert, par référence à la mission Rosetta. Et en fait, c'est la salle où on fait les différentes opérations de conception de l'instrument radar. En fait, cet instrument, il est construit en collaboration avec la société Mtronix au Luxembourg, qui fait la spatialisation et puis qui fait aussi toute une carte, la carte d'interfaçage et de commande. Nous, on fait le récepteur. L'université de Dresde fait l'émetteur. Et c'est ici qu'on a donc conçu ce récepteur, qu'on le teste et qu'on suit sa production. Mais c'est aussi ici que l'on conçoit toute la calibration de l'instrument. On est en charge, en fait, de la qualité des données à la fin. C'est-à-dire que on va vérifier aux différentes étapes de construction, qu'on a les performances attendues, qu'on aura la sensibilité nécessaire pour être capable de faire les mesures et avoir le maximum de retours scientifiques.
On est face à plusieurs instruments sur cette table. Quelles sont les fonctions de ces instruments qui, pour moi, sont assez énigmatiques ?
Alors, là, vous avez le radar lui-même, l'électronique du radar. Il n'y a pas les antennes, bien évidemment. Donc, c'est cette boîte, comme je disais, 10 cm par 10 cm par 10 cm. Et c'est une copie du modèle qui va être envoyé. Et vous avez autour tout un accastillage qui permet de le faire fonctionner. Donc, un radar, qu'est-ce que c'est, fondamentalement? C'est un système qui va émettre des ondes. Les ondes vont se propager dans le vide. Et puis, elles vont interagir avec la surface et avec l'intérieur de l'astéroïde, et le but, c'est de mesurer le signal qui est revenu et qui va nous donner une information sur cet intérieur. Quand on est dans un laboratoire, on n'a pas d'astéroïde sous la main, on n'a pas un kilomètre de séparation. Donc, qu'est-ce qu'on fait, en fait? On a tout un système de fibre optique avec 4 kilomètres de fibre optique. Ça correspond à 2 kilomètres aller-retour. Donc, on va convertir le signal radio en signal optique. Il va tourner dans cette fibre optique pendant l'équivalent de 4 kilomètres. Et ça va nous permettre de mesurer un signal qui nous revient. Alors, c'est juste un signal, une impulsion. On n'a pas la complexité qu'on aura sur le signal venant de l'astéroïde, mais ça nous permet de simuler le fonctionnement de l'instrument définitif. Dans la vraie vie, c'est-à-dire dans l'espace, on a le radar qui est connecté à la plateforme, qui va lui envoyer des commandes, et en fait, on va envoyer des commandes, on va construire les commandes depuis la Terre, dans cette salle, on va construire les commandes, on va les envoyer à ERA, ERA va les envoyer à Juventas, Juventas va les envoyer à notre instrument. Et inversement, notre instrument va produire ce qu'on appelle de la télémétrie, des mesures, qui vont faire le chemin inverse pour arriver jusqu'ici. Quand on est en test, en fait, on va remplacer tout ça par un ordinateur qui a un certain nombre de logiciels pour faire, pour remplacer les antennes, ERA, Juventas, et pouvoir piloter directement l'instrument.
Alors si on fait une manip un peu type de test du radar, on va faire ça ensemble maintenant. On commence par quoi ?
On commence par allumer l'instrument. C'est-à-dire lui mettre de la puissance. Une fois qu'il est allumé, on va pouvoir lui mettre un jeu de paramètres, ce qu'on appelle une mission table, dans lequel il y a l'ensemble des paramètres qui lui dit fais ça, et puis répète-le tant de fois, etc. Donc toute la paramétrisation de l'instrument. Comme je le disais, une des spécificités sur un radar petit corps, c'est qu'on a des distances qui varient, c'est qu'on a des vitesses qui peuvent varier. Donc on a besoin d'avoir une très grande versatilité dans ce paramétrage. C'est ce qu'on est en train de faire.
Là, Hugo, vous êtes en train de tout simplement de coder. Hein.
Oui, de rentrer des commandes. On a envoyé la puissance au radar. Ensuite, on a demandé à l'ordinateur à l'intérieur du radar de démarrer. Et ensuite, on lui a donné un jeu de paramètres. Et là, on est prêt à lancer une acquisition.
Donc là, on voit qu'il y a des choses qui se passent.
des choses se passent. Qu'est-ce qui se passe?
Alors là, ce qu'on voit, c'est on voit l'émission qui est réalisée par le radar. On ne voit pas la réception, puisque c'est le radar va la recevoir et on va pouvoir la visualiser sur l'ordinateur. Mais là, on voit la partie émission. Et on voit qu'on a deux canaux différents d'émission. On voit qu'on a du signal.
On voit la forme du signal émis. On voit la forme du signal qui est émis par le radar. Et puis, en fait, on voit le signal qui revient après être passé par la ligne coaxiale et avoir été retardé. Donc, c'est ce signal qu'on est en train d'enregistrer. Ensuite, on reçoit un fichier de télémétrie qui est similaire à ce qu'on recevra quand on sera en opération. Et on a des logiciels séparés qui nous permettent de visualiser cette télémétrie pour l'exploiter, pour faire l'exploitation scientifique.
De quelle nature vont être ces données-là ?
Si on a simplement un arc d'orbite, peu d'acquisition, on a une donnée 2D, donc on va faire de la cartographie, où on va mêler en fait une information qui vient de la surface et de la subsurface sur la même carte. Mais en fait, là, l'objectif, c'est d'aller vers de la tomographie, c'est-à-dire d'avoir suffisamment d'acquisition pour être capable de faire une reconstitution en 3D de l'intérieur. Et l'objet de cette reconstitution, c'est déjà de mettre en évidence le degré d'hétérogénéité, donc de montrer qu'on a un agrégat. Mais c'est aussi de caractériser cet agrégat. Donc on espère être capable d'arriver jusqu'à une distribution de taille des éléments constitutifs.
Quand est-ce que vous recevrez les premières données ?
Le lancement est prévu pour 2024. Après, il y a la croisière, donc on va arriver sur le système en 2027.
Merci Antoine Beauchamp pour ce reportage. Une réaction à ce qu'on vient d'entendre, Patrick Michel ?
Oui, oui, oui. Il y a tellement de choses à dire, c'est extraordinaire. Oui, en fait, la donnée de la structure interne est fondamentale parce que pour l'instant, nous n'avons que les données de surface de Dimorphos qui semblent dire que c'est un agglomérat. Alors, ce qui est très intéressant d'ailleurs, c'est là qu'on voit qu'on est quand même encore en train de comprendre ce que sont ces objets, c'est qu'on était assez sûr de la forme du gros Didymos, qui selon nous devait être une toupie, et on n'était pas sûr de la forme de Dimorphos. Et au final, ce que l'on a, c'est un Didymos qui ressemble pas tant que ça à une toupie, et un Dimorphos qui ressemble à ce que on avait prédit dans certains modèles, donc c'est tout l'inverse. En réalité, ce que l'on pense être à l'origine de la formation des binaires, c'est un corps seul au départ, qui est en rotation de plus en plus rapide, parce que ces corps subissent des effets thermiques qui peuvent accélérer leur période de rotation. Et quand l'objet tourne de plus en plus vite sur lui-même, si la matière de surface est très peu cohésive, eh bien, elle a tendance à migrer vers l'équateur, là où la force centrifuge est maximale, et puis éventuellement à s'échapper. Donc on a des petits rochers qui s'échappent, et ils peuvent éventuellement se réagglomérer pour former un secondaire. Et en fait, on sculpte le corps initial dans cette forme de toupie, simplement parce que le matériau descend d'abord vers le pôle, vers l'équateur, donc on accumule un bourrelet à l'équateur comme une toupie, et puis certains s'échappent pour former un agrégat. Et c'est exactement ce qu'on voit, c'est-à-dire que Dimorphos ressemble au modèle qu'on avait publié dans Nature en 2008 de façon presque incroyable. Alors vous devriez dire, ben voilà, donc vous n'êtes pas étonné. Ben si, parce que ça reste un modèle. Et là, on vérifie ça, sauf que on comprend plus pourquoi on n'a plus une toupie parfaite, parce que normalement ça marche, l'un vont avec l'autre. Donc la première chose que le radar va devoir faire, c'est de nous dire si effectivement le Dimorphos que l'on voit est un agrégat de la surface au cœur, parce que dans nos modèles, on réagglomère plein de rochers pour former un corps, et donc ça veut dire que de la surface au cœur, on doit avoir plein d'inhomogénéité, etc. Donc ça, c'est fondamental. Et puis, il faut comprendre aussi pourquoi on n'a pas cette forme de toupie. Donc on attend vraiment avec impatience cette donnée interne, parce que jusqu'à présent, toutes les connaissances que l'on a de l'intérieur des astéroïdes sont des connaissances indirectes, très très indirectes. Et là, pour la première fois, on va pouvoir mesurer ça et discriminer parmi tous les scénarios de formation des binaires qui, je rappelle, représentent 15% des petits astéroïdes, donc c'est une fraction non négligeable.
Naomi Murdoch, hein, on parle de ce petit objet, on voit que sur la sonde ERA, il y a beaucoup de technologies embarquées. Un mot aussi hein, pour dire que des télescopes spatiaux comme le James Webb et Hubble ont été spécialement mobilisés pour observer l'impact. On a un tout petit objet qui est observé en fait sous toutes ses coutures.
Oui, c'est sûr, cet objet, on était vraiment impressionnés par le télescope de James Webb qui a regardé l'impact, Hubble qui a regardé l'impact, même d'autres sondes dans l'espace qui se dirigent vers d'autres astéroïdes se sont retournées pour essayer de regarder cet impact aussi. Et bien sûr, il y avait toute la campagne d'observation de la Terre. Et c'est de là, on voit que c'est une très grande mobilisation, on va regarder de loin, on a observé l'impact, on a vu ce qui s'est passé, on a vu dans les télescopes que ça s'est devenu plus lumineux. Après l'impact, cet objet s'est plus brillant dans le ciel. Ça veut dire qu'il y avait de l'éjecta qui est sorti, une grande quantité d'éjecta qui est sorti, qui brille dans le ciel. Donc, c'est super important. Et ensuite, on y va avec ERA. On a le radar que Alain vient juste de nous décrire. Et ce radar veut nous donner énormément d'informations sur la naissance et l'évolution de cet objet, comme Patrick a décrit, mais aussi la réponse à l'objet, à l'impact d'ERT. En fait, c'est fondamental, les propriétés physiques, pour comprendre comment l'astéroïde Amorphos a répondu, quelle forme est le cratère, quelle était le quantité d'éjecta et pourquoi. Et c'est vraiment ces mesures de structure interne, l'imagerie de l'intérieur de l'astéroïde Amorphos avec le radar qui vont être vraiment importants, clés pour ces mesures.
Mathilde Fontaise.
Oui, on a vraiment l'impression de vivre un âge d'or, en fait, sur les astéroïdes, sur la découverte des astéroïdes. On a ces images incroyables, ces analyses qui vont venir par ERA fin 2026, en 2027. On a les échantillons d'Hayabusa 2 qui ont été ouverts et ont commencé à livrer leurs premiers résultats là, ces 6 derniers mois, avec des découvertes de molécules organiques, des grains présolaires qui préfigurent un peu l'ambiance dans laquelle notre système solaire s'est formé. On va avoir les échantillons d'Osiris Rex qui vont arriver aussi. On a l'impression que voilà, ces dernières années, tout se met en place. Toutes les communautés sont au chevet comme ça de ces données, de ces images, pour mieux comprendre ces astéroïdes qui sont à la fois potentiellement dangereux, mais aussi dépositaire de l'histoire de notre système solaire, mais aussi, comment dire, un proxy, hein, une manière pour les astrophysiciens de, par exemple, de quantifier l'âge d'une surface qu'on regarde, comme celle de la Lune. Bref, ce sont des éléments super importants pour comprendre le système solaire, la Terre, la Lune, toute notre histoire. Et en fait, là, ces trois dernières années et les trois prochaines, on a l'impression d'avoir une profusion de données. Voilà, c'est un bon moment.
Astéroïde d'Orval Carlos Sibelius à 16h41 sur France Culture, car nous parlons aujourd'hui de la mission DART ERA qui vise à tester notre capacité à dévier un astéroïde de sa trajectoire. On en parle avec Naomi Murdoch, chercheuse en planétologie à l'ISAE Superhéros et membre des équipes DART ERA. On en parle avec Mathilde Fontez, rédactrice en chef de la revue Epsilon, et avec Patrick Michel, directeur de recherche au CNRS à l'Observatoire de la Côte d'Azur, responsable scientifique de la mission ERA de l'ESA. Alors Patrick Michel, hein, vous l'avez évoqué tout à l'heure, cette mission, c'est la concrétisation de 20 ans d'efforts. Quelle a été la genèse du projet ?
Alors la genèse du projet, en fait, ça a commencé dans les années 2000, quand l'Agence spatiale européenne, en 2002, a sollicité 6 experts, dont je faisais partie, en fait, pour recommander des missions pour faire face au risque d'impact d'astéroïdes. Et plusieurs propositions avaient été faites par des industries, des scientifiques, et nous avions recommandé une mission qui s'appelait Don Quichotte, qui consistait à faire ce test de déviation d'astéroïdes avec un projectile. Alors le projectile s'appelait Hidalgo, maintenant évidemment quand on dit Hidalgo on pense à autre chose, et l'orbiteur s'appelait Sancho, et l'idée c'était voilà de taper sur un astéroïde et avec l'orbiteur de mesurer l'effet. On a étudié ce concept jusqu'en 2007 à l'Agence spatiale européenne, d'ailleurs Naomi nous a rejoint à ce moment-là, et puis bon il n'y avait pas de programme ni de budget dédié à ces projets à l'Agence spatiale européenne, donc c'était resté dans les cartons, mais toujours cité comme la chose à faire par les différents rapports de défense planétaire au Congrès américain, aux Nations Unies, etc. Et donc on avait cette petite frustration de dire ouais, c'est trop bon, on a fait une étude géniale, c'est dommage que ça s'implémente pas. Et en fait, en discutant avec un collègue, Andy Cheng, d'ailleurs du laboratoire où se fait DART, à la conférence des défenses planétaires de Bucarest en 2011, qu'on a commencé à dire, c'est quand même trop bête, mais si on se partageait les efforts entre les deux agences, l'ESA et la NASA. Et puis c'était à une époque où l'ESA et la NASA avaient une confiance un peu brisée, parce que la NASA s'était retirée de certains projets, dont ExoMars, de l'ESA, et on se disait, alors si on fait ça, il faudrait peut-être qu'on trouve une manière d'être partiellement indépendant les deux missions. C'est d'ailleurs pourquoi on s'est retrouvé quelques mois plus tard à Pasadena au Caltech, et je me souviens, sur une table d'un restaurant mexicain, on dessinait comment est-ce qu'on pourrait faire ça, et qu'on s'est dit, mais dans le fond, si on trouve un astéroïde double qui passe près de la Terre à un moment donné, on pourrait, avec les observations terrestres, avoir au moins une partie de l'histoire en attendant la mission qui irait faire le détective. Et si jamais elle n'y allait pas, au moins, on n'avait pas tout perdu. Et c'est là qu'on a cherché, on a trouvé qu'un astéroïde double passait près de la Terre en 2022. On était en 2011, ça faisait 11 ans, ça avait l'air de fonctionner pour se battre, pour avoir le financement et développer la mission. Et c'est comme ça que sont nés DART et, à l'époque, c'était pas ERA, c'était un autre nom, AIM, pour Asteroid Impact Mission, qu'on a, nous, du côté européen, proposé aux États membres de l'ESA en 2016, dans l'idée qu'elle arrive avant DART, qu'elle observe l'impact et qu'elle mesure les effets après. Et malheureusement, au conseil ministériel de l'Agence spatiale européenne qui se réunit tous les 3 ans, donc en 2016, à peu de choses près, des délégations sont retirées au dernier moment et nous n'avons pas été financés, ce qui a été une source de pleurs énorme, évidemment. Mais il y avait une telle pression de certaines délégations, la communauté, etc., qu'on est retourné voir le directeur de l'ESA qui nous a accordé de continuer l'étude qu'on a pu reproposer en 2019. Et c'est comme ça qu'est finalement a été approuvé ERA, mais et c'est aussi, ça explique pourquoi nous arrivons en retard, alors que tout a commencé avec une véritable discussion entre un Européen et un Américain, donc on devait le faire ensemble. C'est simplement parce qu'on n'a pas eu le financement dès le départ fourni par l'Europe, mais c'est pas grave, on va le faire, ça nous permet de digérer ce qu'on voit avec DART, et 4 ans après dans l'espace, rien ne se passe, donc on pourra mesurer les effets de l'impact comme si on l'avait fait en temps réel. J'ajoute d'ailleurs que en ce moment, au moment où je vous parle, je suis en train de recevoir, et elles sont publiques, les premières images du petit satellite italien LitchaCube qui nous montre à quel point on a fait des dégâts sur Dimorphos, puisqu'il y a énormément d'éjecta. Et comme je vous disais, malheureusement, on va devoir être frustré parce que les éjecta, ils mettent tel temps à évoluer que même les images qu'on recevra un peu plus tard ne vont pas nous donner la fin de l'histoire, mais waouh, c'est violent.
Il faudra encore un peu de patience, en effet, pour savourer toutes ces données. Par rapport à cette nécessité d'une défense planétaire, Naomi Murdoch, pour revenir encore un peu en arrière, comment est née la peur d'une collision? On sait que c'est une prise de conscience progressive du risque, mais est-ce qu'il y a eu un événement déclencheur?
On sait depuis longtemps qu'il y a des impacts dans les systèmes solaires. Il suffit de regarder la Lune et on voit tous les cratères et on sait qu'il y a des impacts qui arrivent. Par contre, je pense que c'était probablement en 1994, quand il y avait l'impact de la comète Shoemaker-Levy 9 sur Jupiter. C'est là quand la comète s'est désintégrée lors de son approche de la planète avant de l'impacter, qu'il y avait peut-être une prise de conscience un peu plus dans le public et parmi les agences. Ensuite, un peu plus tard, en 2013, il y avait un autre astéroïde, il y avait un astéroïde d'environ 17 mètres qui a explosé au-dessus de la Russie. Et même cette petite astéroïde, seulement 17 mètres en diamètre, il y avait environ 1500 personnes blessées et environ 33 millions de dollars de dommages, de dégâts. Et du coup, vraiment, c'est ces événements qui nous font prendre conscience du fait qu'il faut pouvoir faire quelque chose. Si un jour, on détecte un astéroïde qui peut rentrer en collision avec la Terre, on veut être préparé. Aujourd'hui, heureusement, il n'y a aucun astéroïde connu qui risque d'impacter la Terre, qui menace la Terre. Mais le problème, c'est qu'il existe des dizaines de milliers d'astéroïdes dans l'espace, et surtout dans l'espace près de la Terre, qu'on n'a pas encore découvert. Du coup, même si on cherche en ce moment, il reste un grand nombre de ces objets. On ne sait pas où ils sont. Du coup, on ne sait pas comment ils se déplacent dans le ciel. Et on ne sait pas si un jour, ils vont nous poser un risque ou pas.
Oui, c'est ça, c'est que protéger la Terre, dévier un astéroïde potentiellement menaçant, les missions d'Artera ne sont valables et applicables que si on a la capacité d'anticiper la collision. On est au point sur l'anticipation de ça, Mathilde Fontaise?
Ben, on est au point, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on est en partie au point, puisque tous les astéroïdes de plus d'un kilomètre de diamètre ont été détectés par des missions donc de surveillance des astéroïdes, comme le télescope LINEAR, Catalina Sky Survey ou Pan-STAR, des télescopes panoramiques. Il y a d'autres missions qui sont prévues, d'autres télescopes qui sont prévus pour surveiller le ciel comme ça à la recherche de ces astéroïdes, comme NEO Surveyor ou le Fly-Eye télescope, par exemple, pour l'Europe. Parce qu'en fait, il nous en manque encore pas mal, et notamment, il manque 60% des astéroïdes de plus de 140 mètres.
140 mètres, c'est le seuil à partir duquel un astéroïde devient méchant.
Bah, c'est-à-dire que oui, en de ça, on peut imaginer qu'il explose avant de toucher le sol, encore que l'astéroïde de Chelyabinsk a montré que même quand il ne touche pas le sol, ça fait des dégâts. Et je crois qu'il y avait une grande surprise à l'époque, hein, de s'apercevoir des dégâts qui avaient été provoqués par cet astéroïde, qui ne faisait que 18 mètres, et qui, par des effets de souffle, des effets thermiques, a fait plein de dégâts. Les statistiques, il faut un peu les avoir en tête, parce que c'est quand même important de les rappeler, même si elles sont incertaines, qu'elles sont basées sur des modèles, bien sûr, sur des recensements des cratères sur Terre, des populations dans l'espace, etc. Mais on imagine que, disons raisonnablement, qu'on aurait un astéroïde qui fait la taille 10 km de diamètre, qui tomberait tous les 100 millions d'années. Donc c'est le type d'astéroïde qui a mis fin aux dinosaures et à 70% au passage des espèces terrestres, il y a 66 millions d'années. Un astéroïde qui ferait des dégâts à l'échelle d'un continent, on évalue que c'est tous les 100 000 ans. Et un astéroïde qui fait des dégâts à l'échelle d'une ville, on appelle un city killer, qui fait en gros 50 mètres, c'est tous les 1000 ans. Donc tous les 1000 ans, c'est pas si grand, c'est pas un risque qui n'existe pas. C'est un risque faible, mais c'est un risque qui existe quand même. Et pour l'instant, les astéroïdes de 140 mètres, on en connaît 40%. Il en manque 60% qui sont encore à découvrir. D'où l'idée d'avoir ces télescopes, ces financements, de cette surveillance du ciel permanente pour pouvoir détecter à temps. Puisque, une fois qu'on les a détectés, qu'est-ce qui se passe? C'est là que c'est le plus beau, c'est cette chaîne incroyable de regards, de télescopes, qui, un petit peu comme cette nuit avec la mission DART, quoi. Tous les télescopes du monde, qui, y compris les amateurs, qui s'orientent vers le ciel et qui regardent et qui suivent la trajectoire. Ça a été le cas pour l'astéroïde Apophis en 2004, hein, un astéroïde dont la probabilité de collision était très haute. Je laisserai Patrick Michel raconter l'anecdote parce qu'il y était, je crois. Mais oui, on a la détection et ensuite on a le calcul de la trajectoire de l'astéroïde le plus vite possible, ensuite une probabilité de collision, et ensuite derrière seulement la question qui se pose de savoir si on peut agir ou pas. Donc d'où l'intérêt de détecter le plus tôt possible.
Patrick Michel ?
Oui, non, moi ce que je voudrais dire surtout, c'est que là on est quand même, on commence à s'organiser, et ce que je trouve génial, c'est que bon, le risque d'impact d'astéroïde, c'est un des risques les plus faibles par rapport à tous ceux auxquels on a à faire face, hein, les tremblements de terre, les tsunamis, des individus, on en a été témoins, et de nombreux individus.
Mais les règlements climatiques,
il y a des autres conséquences.
Ce genre de choses.
Voilà. Mais c'est le seul qui peut être prédit et évité avec des moyens raisonnables, réalisables, et qu'on est justement en train de mettre en œuvre. Et ça, c'est très important, parce que notre idée, c'est d'offrir aux futures générations un plan robuste, de telle sorte qu'elle n'est pas à improviser, sachant que c'est un problème multiparamètre. Il y a le problème de l'identification de la menace, le problème de savoir comment on y fait face, et le problème de la coordination internationale, c'est-à-dire savoir au niveau politique comment on décide, qu'est-ce qui est légal, etc. L'analogie, moi je ne la prendrais pas avec le réchauffement climatique, je prendrais ça avec une pandémie. On sait qu'un virus, c'était peu probable qu'on vive ce qu'on a vécu, mais on savait que ça pouvait arriver. Et c'est la même chose, il faut savoir prédire est-ce que ce virus va se propager. Il faut avoir une méthode pour le prévenir. Est-ce qu'on peut avoir un vaccin? Et puis aussi, il faut avoir une coordination internationale pour que, si possible, on se fasse tous à peu près les mêmes choses. C'est exactement la même chose avec les astéroïdes. La bonne nouvelle, ça fait 15 ans que nous, on s'est préparé. Le volet faire l'inventaire, c'est en train d'être fait. Et j'espère que le Congrès américain va voter la mission NEO Surveyor. Parce que là, en 10 ans, on fait l'inventaire de tous les objets plus grands que 140 mètres. Donc ça veut dire que d'ici 2040, j'en parlais hier avec un directeur de la NASA, on pourra évaluer la menace à court terme probablement nulle et l'anticiper. En parallèle, la prévention, c'est des méthodes de déviation telles qu'on les teste, et la coordination internationale, on a commencé il y a 15 ans avec deux groupes de travail sous l'égide de l'ONU. Donc vraiment, on est en train de travailler là-dessus. Ça prend du temps. Heureusement, on a le temps parce que statistiquement, il n'y a rien qui devrait nous menacer sur notre échelle de durée de vie à nous. On sait que ça se produira sur le long terme, et donc on veut pouvoir offrir aux futures générations un plan validé, coordonné, de telle sorte que ces futures générations nous remercient parce qu'elles pourront y faire face plus facilement, tout en faisant des développements technologiques,
Patrick Michel,
relevant des défis scientifiques, etc. Donc voilà, c'est gagnant-gagnant.
Patrick Michel, c'est moi qui vous remercie, et qui vous remercie tous les trois de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure. Je vous interromps pour une collision. C'est le retour de la chronique d'Étienne Klein et sa chronique Le Pourquoi du Comment.
Pourquoi dit-on que la science est réfutable ? Lorsqu'on souhaite expliquer ce qui distingue la science de ce qui n'est pas elle, ou pas tout à fait elle, c'est toujours le nom du philosophe autrichien Karl Popper qui surgit en premier. Karl Popper a écrit un ouvrage devenu canonique, intitulé « La logique de la découverte scientifique », qui fut publié en 1934. Par quoi, se demande-t-il, la science se démarque-t-elle des pseudo-sciences ? Karl Popper propose un critère devenu célèbre, celui dit de la réfutabilité. Une théorie n'est scientifique, selon lui, que si les principes qui la constituent conduisent à au moins une prédiction suffisamment précise pour pouvoir être testée par une expérience ou une mesure susceptible de la réfuter. Apparaît ainsi, selon lui, une différence nette entre les doctrines closes, qui refusent ou méprisent le commerce avec le monde extérieur si celui-ci menace de les léser ou de les dégrader, et de l'autre côté, les théories ouvertes, seules qualifiables de scientifiques, définies par le fait qu'elles courent le risque intellectuel de leur adaptation, de leur transformation, voire de leur abandon pur et simple. Dans un tel schéma, le scientifique n'est plus tout à fait le savant. Il n'est plus celui qui sait, mais celui qui sait poser des questions critiques susceptibles de chambouler le champ des savoirs. Quant à la démarche scientifique, elle ne procède plus par observations répétées et formulation de lois tirées de ces observations, mais devient hypothético-déductive. On pose des hypothèses, on voit ce qu'elles impliquent en telle ou telle circonstance, puis on élabore des expériences pouvant, si possible, éprouver, mettre à l'épreuve du réel, les hypothèses en question. En ce sens, toute théorie vraiment scientifique devrait précéder l'observation, au moins pour partie. Les théories, au contraire, spongieuses, celles qui ressemblent à des caramels tellement malléables qu'elles peuvent épouser toutes les formes de la réalité et s'accommoder de tout nouveau résultat, sont capables de survivre éternellement sans changer de constitution. Pour cette raison, dit Karl Popper, elles ne sont pas scientifiques. Ce critère, victime d'un raccourci fâcheux, est parfois mal compris, sans doute parce que le verbe anglais « to falsify », généralement traduit par « réfuter », n'a pas vraiment d'équivalent en français. On lui fait dire qu'une théorie ne serait scientifique que si elle peut être démontrée fausse. Il s'agit évidemment d'un contresens. Reste que, tant qu'elle n'a pas été « réfutée », entre guillemets, toute théorie scientifique ne peut prétendre être mieux qu'une hypothèse corroborée. L'idée qu'il y aurait des expériences cruciales, capables à elles seules de réfuter une théorie scientifique, apparaît toutefois quelque peu idéalisée, ainsi que l'a montré l'histoire de la physique. Que faire en effet lorsque le résultat d'une mesure, d'une expérience ou d'une observation contredit les prédictions d'une théorie physique, par ailleurs solidement éprouvée ? Faut-il vraiment remanier ou abandonner la théorie en question ? En réalité, à chaque fois, l'affaire n'est pas si simple, car deux hypothèses radicalement différentes peuvent être envisagées. La première consiste à considérer que les lois physiques sur lesquelles s'étaient appuyées les prédictions théoriques ne sont pas aussi exactes qu'on l'avait cru. Dans ce cas, la solution du problème ne peut être que de nature législative. Il faut corriger certaines des lois physiques utilisées, voire bâtir une nouvelle théorie. La seconde hypothèse consiste au contraire à continuer de faire confiance aux lois physiques et à imaginer une sorte de chaînon manquant entre la théorie et ce qui a été observé ou mesuré. On peut notamment modifier, en s'appuyant sur ces lois telles qu'elles sont, l'interprétation du phénomène qui semble les contester. Par exemple, on peut imaginer qu'il existe une entité ou une substance non encore découverte dont l'existence permettrait d'annuler le désaccord entre la théorie et l'observation. La solution revient alors à compléter le mobilier ontologique de l'univers, c'est-à-dire l'ensemble des choses supposées exister en son sein. Aucune de ces deux sortes de solutions ne peut être écartée a priori. L'histoire de la physique fourmillant de crises résolues de façon législative, d'autres résolues par des ajouts ontologiques. Je vous laisse réfléchir là-dessus.
Merci à toutes et à tous d'avoir été à l'écoute. Merci à toute l'équipe de la science CQFD. Cette émission, ce podcast sur le site franceculture.fr ou sur l'appli Radio France, c'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.